Vous dites, OK, c'est bon, je continue, j'ai envie de persévérer. Et je parle pas là des résolutions où je dois faire un peu plus de sport pour perdre du poids, où je dois arrêter ci, je dois arrêter ça, ou tiens, je veux accomplir quelque chose d'extraordinaire, aller faire un saut en parachute ou quelque chose comme ça. Non, non, moi je vous parle des résolutions spirituelles. Et j'aimerais que ben, ce matin, eh bien, on puisse être encouragé à vivre ces résolutions spirituelles qu'on a pu prendre, et si on ne les a pas prises, bah qu'on les prenne. On a abordé, à travers cet état des lieux, le fait qu'on transmet ce que l'on fait et qui l'on est. La fois d'avant, on avait abordé le thème de transmettre sous l'angle « transmettez la parole en prenant soin les uns des autres ». Et ce matin, j'aimerais aborder avec vous, un disciple ne peut transmettre que ce qu'il connaît. Et pour ça, ce sera une invitation pour nous à connaître Dieu, d'une part, et deuxièmement, à connaître ce que Dieu a mis en nous. Et j'aimerais vous entretenir sur la connaissance du disciple. Ulrich et Daniel l'ont abordé en ce début d'année. Et j'aimerais approfondir cela dans la pensée de la transmission, parce que je crois que c'est un objectif tellement important qu'on doit se fixer de connaître Dieu. Et donc, j'aimerais d'abord revenir sur le fait de connaître Dieu, connaissez Dieu. C'est une invitation que l'on a chacun, on le sait tous, mais connaître Dieu, parfois, c'est plus l'objet de notre conception à nous que de la réalité de qui est Dieu. Et voyons-le ensemble, en revenant sur cette parole que Ulrich a rappelée entre la discussion entre Pierre et Jésus, et Jésus qui était en train de demander, il disait « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Et Simon-Pierre lui répondit « Tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Direct, Pierre, il ne se pose pas de questions, il sait ce qu'il a vu, bon, en même temps, il a vécu des sacrés miracles avec Jésus, mais Pierre, là, c'est un homme passionné, c'est un homme de feu, c'est un homme qui parle peut-être un peu plus vite qu'il ne réfléchit. Pas que c'était faux, mais que sa conception à lui, elle était peut-être un poil différente. Et ça, on va le revoir. C'est un homme qui est là avec ardeur et qui s'engage avec le Messie. En même temps, c'est pas mal, hein. Il part d'une position où il était pêcheur de poissons. Jésus lui dit « Tu vas être pêcheur d'hommes ». Et quand on voit ce que Pierre a vécu, on se dit « Ouais, pas mal. Ça pourrait être sympa. » Est-ce que vous aussi, vous aimeriez marcher sur l'eau? Est-ce que vous aussi, vous aimeriez marcher avec Jésus et qu'il soit là à côté de vous et que vous puissiez monter sur une montagne à un moment donné, voir la transfiguration? Franchement, moi, j'aurais bien aimé être là comme ça, à vivre ça aussi. Le problème, c'est quand on regarde un peu plus loin, dans Matthieu 26, il y a Jésus qui annonce cette nouvelle chose. Il dit, Jésus leur dit alors, « Cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. » En effet, il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau s'enfuiront de tous côtés. » Évidemment, on a notre super Pierre. Pierre prit la parole et lui dit, « Même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi là, je ne serai pas ébranlé. » Ah, sacré Pierre. Jésus, il annonce comment il va finir, mais ce n'est pas de l'avis de Pierre. Pierre, il n'est pas d'accord. Et ça, c'est fort parce que, en fait, Pierre, là, la conception de Pierre, c'est que Jésus, c'est le Messie, pas de problème, mais le Messie, là, il n'est pas là pour mourir, mais il est là plutôt, peut-être, selon Pierre, hein, pour fracasser la tête de ses ennemis, par exemple. Ça peut être aussi balayer tous ceux là qui sont là, qui s'opposent à lui, et puis il arrive avec son armée d'anges, paf, il dégomme tous ceux qui sont contre lui, l'armée romaine par exemple, hop, d'une bouchée, il finit ça, et puis il s'installe sur le trône, et puis après il peut régner. Ça, c'était la vie de Pierre. Et quand Jésus dit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau s'enfuiront », il est en train d'annoncer exactement ce qu'il va arriver et qu'on connaît. Ça, c'est fort parce que Pierre, en fait, a davantage confiance en ce qu'il pense de Jésus qu'en Jésus lui-même. Et ça, bah finalement, est-ce que parfois on ne fait pas pareil nous aussi? Moi, je crois que parfois, on a plus confiance en ce qu'on pense de Jésus qu'en Jésus lui-même. Et ça, ça a un impact. C'est un impact terrible sur nos vies. Et pire, quand on pense quelque chose de Jésus et qui n'est pas en fait ce qu'est Jésus réellement, finalement, par nos relations les uns avec les autres, eh bien, on transmet ce Jésus-là. Et je crois qu'à travers l'histoire, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, terribles, qui ont impacté les gens autour et ont servi de contre-témoignage. Et si on n'est pas affermi dans la réalité de qui est Jésus en profondeur, non pas avoir confiance en ce qu'on pense qu'il peut faire, mais juste avoir confiance en lui, bien je crois que notre témoignage aurait une toute autre ampleur. C'est pas facile, parce que quand on chante ensemble, et ce matin on a pu chanter, on chante des fois aussi ce chant « Je te donne mon cœur, je te donne tout ». Pierre là, quand il dit que Jésus il est le Messie, le Fils de Dieu, je ne serai pas ébranlé, moi je serai là. Lui, en gros, il dit ça. Hein. Moi, mon cœur, il est à toi. Pierre, il dit ça à Jésus. Moi, mon cœur, il est à toi. Et ça ne va rien changer. Il n'y a rien qui va se passer. Je ne serai pas ébranlé. Je serai à toi, je te donne tout, toute ma vie. Je serai là, je t'obéirai. Mais quand viennent les épreuves, ça ne se passe pas toujours comme ça. Quand on lit juste après ce que Jésus dit, ça annonce un peu l'envers du décor et la réalité de qui est Pierre. Lisons-le. Jésus reprit, « Vraiment, je te l'assure, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié trois fois. » Pierre, il ne se démonte pas après. Il réaffira, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Lui, il embarque tout le monde. Il transmet sa fougue, il transmet sa détermination, il transmet ça. Tout le monde dit « Ok », tout le monde dit « Ok ». Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, pas ça. Pas du tout. Parce que on va pas avoir le temps de le lire ce matin, mais j'aimerais qu'on puisse juste se rappeler un peu ce qui se passe. Parce que là, en fait, Jésus, quand il dit ça, il est à son dernier repas, il est en train de partager ce moment-là avec ses disciples, il est en train d'annoncer ce qui va lui arriver, et juste après, en fait, ils partent dans le jardin de Gethsémané, et puis Pierre, avec d'autres disciples, se retrouve avec Jésus. Jésus leur demande, « Bon les gars, moi je sais ce qui va m'arriver, j'ai besoin que vous priez avec moi. » Et qu'est-ce qui se passe? Les disciples s'endorment. Ça commence bien. Hein. Sympa les disciples qui soutiennent. Jamais je t'abandonnerai, je serai toujours là. Non, là, ils dorment, c'est fini. Bah, de toute façon, quand on est fatigué, parfois, c'est ça qui nous arrive. Et puis, là, les disciples, ils étaient fatigués. Ils sont endormis, tout simplement. Puis, on voit que Jésus se fait arrêter. Pourquoi? Parce que, en fait, Jésus est trahi par Judas, qui était parti un peu avant, pendant le repas, et qui commence à vendre Jésus pour de l'argent. Et Jésus, du coup, se fait arrêter par les gardes. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Pierre qui dégaine son épée et schlac, une oreille en moins. Et puis, il se dit, bon, c'est bon là, on commence bien. Là, il ne manque plus que les anges derrière. C'est Pierre, hein, j'imagine ce que Pierre est en train de se dire. Les anges derrière, ils n'ont plus qu'à venir. Ils vont leur mettre la tête au carré. Et puis, les gardes, là, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ce n'est pas une légion d'anges qui va avoir peur de 40 bonhommes, quand même. Sauf que Jésus, il ne fait pas ça. Il ne répond pas de cette manière-là en envoyant ses anges. Qu'est-ce que fait Jésus? Il guérit l'oreille du garde. Il guérit l'oreille du garde. Jésus est entraîné alors dans la ville. Il est questionné, il est amené pour aller être jugé au Sanhédrin d'abord. Pierre le suit. Et puis quand Pierre le suit, au fur et à mesure qu'il passe, il est questionné par les gens, par les gardes. Et puis, à ce moment-là, il renie une fois, deux fois et trois fois. Franchement, on peut dire, ouais Pierre, franchement, t'es là, tu parles comme ça, tu dis des choses et puis voilà, tu fais même pas ce que tu dis, il est beau le gars. Il est beau là, l'homme de Dieu, il est beau. Est-ce que, mais la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que nous, on ferait pareil? Est-ce que nous, on ferait mieux? Ou est-ce que nous, on pourrait faire pire? Je ne peux pas jeter la pierre sur Pierre, mais moi, je sais que quand on regarde un petit peu ce qui se passe, c'est quand même terrible parce que Pierre savait que là, s'il était embarqué, c'en était fini lui. Et il avait peur de mourir. Et ça se comprend. Et on peut avoir tous peur de mourir. Mais j'aimerais qu'on reprenne cela parce qu'on va voir comment Pierre est passé de son état à un autre état. Alors là, on va avoir la scène hollywoodienne. Quand Pierre, il renie trois fois Jésus, là, boum, scène hollywoodienne, il dit... Ah, c'était... Ouais, scène hollywoodienne, le Seigneur se retourna et posa son regard sur Pierre. C'est genre, Pierre, il vient de renier sur trois fois Jésus, puis là, Jésus, chpa ! Il regarde comme ça, alors, il le regarda, et puis juste le regard là de Jésus, alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit. « Avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu m'auras renié trois fois. » Et Pierre, il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Scène hollywoodienne, terriblement triste, mais en même temps, c'est ce que Jésus avait annoncé. C'est ce que Jésus avait annoncé. Pierre, on sait qu'il avait vécu tellement de choses avec Jésus. Il a marché sur l'eau, il a vécu la transfiguration, il a vécu tout un tas de miracles, et pourtant, après ça, il repart dégoûté de son acte. Il est tout misérable. Pour Pierre, là, à ce moment-là, tout s'effondre. Il avait vécu des épreuves. Ces épreuves-là l'avaient pressé, mais il en était toujours sorti victorieux. Là, Pierre, il a été tellement pressé, l'ardeur de l'épreuve a été tellement intense que Pierre, en fait, il a littéralement explosé. Il a explosé et c'était fini pour lui. Il était prêt à voir Jésus agir d'une manière. Il avait confiance en ce qu'il pensait de Jésus. Mais le fait qu'il voit Jésus vivre comme ça, c'était plus possible. C'était plus possible. On va juste regarder ensemble une petite illustration pour que vous compreniez bien ça. Alors, la dernière fois, c'était la chantilly. Là, ça va être un peu différent. Et Timothée, tu peux me donner un coup de main, s'il te plaît. Merci. Merci. Super. Alors, regardez ça. Là, alors, vous voyez pas, hein, mais je vous le dis, il y a écrit ici Pierre 1.0. Et puis là, il y a écrit Pierre 2.0. On va voir Pierre 2.0 un peu plus tard, mais j'aimerais déjà illustrer Pierre 1.0. Est-ce qu'il y a des enfants là dans la salle? Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y en a là qui veulent montrer comment Pierre a fini avec cet œuf? Il y a quelqu'un qui veut venir? Ouais, Rose, viens, viens. Après. Anaël, tu viendras après, d'accord? Allez, Rose. Alors, à toi là. Là, je te laisse. Tiens, tu vas le faire devant tout le monde. Hop, on va le faire là. Et moi, je te demande de me montrer comment Pierre était là. Est-ce que tu peux presser Pierre comme Pierre a été là? Tu vas me littéralement... Là, alors, tu vises bien le saladier. Hein. Non, parce qu'après, je vais avoir des problèmes avec Daniel. Tu me vises bien le saladier et tu montres comment Pierre, il a fini. OK? Vas-y, tu frappes l'œuf là sur le bord. Tu sais que tu as déjà fait des gâteaux, j'imagine. Ouais. Avec la caméra? Ah, attends, est-ce qu'on peut voir là? Est-ce que on voit là? Ah. Alors attends, parce que là ça va faire un peu autrement. Bon. Les Choletés, vous me faites confiance? Enfin là, vous avez confiance en Rose. Hein. Vas-y, tu casses l'œuf. Alors après tu l'ouvres, hein, tu le fais tomber dans le saladier. Ouais, vas-y. Oh là là, elle fait ça bien. Elle fait ça bien. Ouais, Rose. Tiens, tu remets ça dans la boîte. Hop. Merci, Rose. Bon, désolé, hein, tu vas devoir aller te laver les mains après. Bon, et l'œuf là, bah, il est cassé. Et ça, c'est Pierre quand il a vécu cette pression-là qu'il a vécu à l'instant. C'est Pierre 1.0. On va regarder Pierre 2.0. Mais avant que Pierre devienne 2.0, bah, il va se passer quand même quelque chose. On va le mettre sur le côté. Hein. Hop. Pierre 2.0, c'est Pierre qui a été transformé. En fait, on sait ce qui se passe par la suite. Jésus ressuscite. Il est vivant, il est victorieux. Et ça, c'est merveilleux parce qu'il n'a pas eu besoin des hommes pour pouvoir accomplir ce qu'il avait à accomplir. Heureusement qu'il n'avait pas besoin de compter sur Pierre là-dessus parce que sinon, bah, ce serait mal fini. Mais on va lire ensemble ce passage-là. Quand Jésus, en fait, il vient de ressusciter, il s'est déjà présenté aux disciples. Et ensuite, il est parti. Puis à un moment, bah, il retrouve les disciples. Mais comment il les retrouve, les disciples? En fait, Pierre, avec d'autres des disciples, en fait, se retrouve à ce qu'ils connaissaient. Ils ont été tellement perturbés parce que ce qu'ils connaissaient de Jésus et qui n'était pas du tout en adéquation avec ce qu'était Jésus vraiment. Et ils sont retournés en fait à ce qu'ils connaissaient de mieux, c'est-à-dire leur vie de pêcheur. Donc Simon-Pierre, Thomas appelé le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher, nous aussi, nous y allons avec toi, lui dirent-ils. » Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Bon, ils font chou blanc, enfin poisson blanc, ou enfin je ne sais pas comment on dit. Ils n'attrapent pas de poisson. Et ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Moi, je vais pas tout lire la suite, là, mais en fait, Jésus, il vient les voir à ce moment-là, alors qu'ils viennent de passer la nuit à pêcher, ils sont fatigués. Comme la dernière fois. Hein. Et puis Jésus leur dit, jetez vos filets. Ils ne savent pas qui c'est encore. Ils jettent les filets et ils ramassent des tas de poissons au point que le filet aurait dû craquer, mais qu'il n'a pas craqué. Voilà une autre pêche miraculeuse. Et qu'est-ce qui se passe après? Ben, en fait, Jean reconnaît que Jésus, le type qui était au loin, et qui leur disait « oui, il faut aller pêcher, aller jeter vos filets ». En fait, c'était bien Jésus. Et puis, ils s'organisent quoi? Bah, barbecue. Donc, ils se font un barbecue de poisson, puis ils vont manger ensemble, et puis ils se retrouvent avec Jésus. Ouais, c'est l'hiver, c'est plutôt l'époque des tartiflettes que des barbecues. Mais voilà ce qui se passe pour eux. Alors, on va lire l'ensemble, et on va voir un petit peu ce qui aura changé dans la vie de Pierre. Vous voyez bien avec la table là, peut-être? Non? Je la bouge un peu? On va la mettre là, sur le côté. Hop. Lisons. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ?»« Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis, il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » ?»« Oui, Seigneur, répondit Pierre, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Et puis, Jésus lui demanda une troisième fois. On l'a déjà lu ça, non ?« Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Bon, Jésus lui pose la question une fois, ça passe. Deux fois, oh, ok, mais alors trois? Ben, en fait, nous en français, on a l'inconvénient que le mot « amour », il veut un peu dire la même chose. Enfin, on n'a pas trop d'autres mots pour décrire l'amour. Sauf qu'en grec, il y en a un petit peu plus. Mais au-delà du fait qu'il y ait différents mots pour le mot « amour » qui sont présentés, moi je crois aussi que Jésus, là, il a posé trois fois la question un petit peu en se disant « allez, clin d'œil pour les trois reniements ». Bon, mon gars, là, on sait que là, t'as pas assuré. Mais Jésus, il l'a pas abandonné. Il est venu vers lui. C'est pas Pierre qui est revenu vers Jésus, hein. C'est Jésus qui est revenu vers lui. Et en fait, il était important pour Pierre de prendre la mesure de ce qu'il disait, puisqu'avant, il dit, non, jamais je t'abandonnerai, je serai toujours là et tout ça. Non, non, Jésus, il a posé trois fois la question là, pour être bien sûr que Pierre réalise, parce que, bon, Pierre, il est un peu dur. Donc, il est peut-être un peu dur de la feuille, du coup, il faut lui réexpliquer plusieurs fois. Et il dit en fait en substance, si je traduis en fait la première fois, si on peut revenir, il dit, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Alors quand il dit m'aimes-tu, c'est est-ce que tu m'aimes au point de vouloir te sacrifier pour moi? C'est le mot agapé qui est utilisé. Et il dit m'aimes-tu, donc est-ce que tu m'agapéo en fait? Donc ce serait ça en grec là. Mais en gros, est-ce que tu m'aimes au point de vouloir te sacrifier? Et Pierre, en fait, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, en gros, je t'aime bien comme un ami. C'est ça ce qu'il dit. Jésus redemande, est-ce que tu m'aimes au point de vouloir te sacrifier pour moi? Et Pierre répond, une deuxième fois, je t'aime comme un ami. Et là, Jésus, en fait, la troisième fois qu'il lui demande, il ne demande pas, est-ce que tu m'aimes au point de vouloir te sacrifier pour moi? Il lui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes comme un ami? Et là, Pierre, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, tu sais tout, tu sais que je t'aime comme un ami. Et il s'arrête là. Pierre, là, il avait compris que il y avait une différence entre ce qu'il pensait avant et ce qu'il disait. Maintenant, il a aligné ce qu'il pensait avec ce qu'il disait. Oui, là, il reste humble. Il a été brisé par ce moment-là. Il a renié trois fois Jésus. Et bah, qu'est-ce qu'il peut faire? La seule chose qu'il peut faire, c'est de dire, ouais, Jésus, là, je t'aime comme un ami, là, tu as changé ma vie, mais j'ai bien montré que je t'aimais pas au point de vouloir me sacrifier. Juste, je t'aime. Et ça suffit. Et là, on voit ce que Jésus dit à la suite de ça. Il dit, vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Et après avoir dit cela, il ajouta, suis-moi. Pierre, il prenait la mesure de ce qu'il disait en disant, oui, je t'aime comme un ami. Mais à l'inverse, la fois précédente, Jésus lui avait dit, tu vas me renier, alors que Pierre disait, je te suivrai jusqu'au bout. Là, Pierre dit, je te suis, je t'aime bien comme un ami. Mais Jésus lui dit, tu vas mourir. Tu vas mourir pour moi, parce que là, l'engagement que tu as pris, ce n'est pas juste des mots. C'est une action véritable que tu veux mener parce que maintenant tu connais qui je suis. Pierre connaissait maintenant qui était Jésus et parce qu'il connaissait mieux qui était Jésus, il allait pouvoir être équipé par le Saint-Esprit pour accomplir ce que Dieu lui demandait et au point de mourir pour lui. C'est un engagement total de Pierre. Pierre a été bouillant. Et Pierre est version 2.0. Alors maintenant, version 2.0. Annaëlle, là, tu veux bien venir? Bon, désolé pour les choletés, hein, mais Pierre 2.0, c'est écrit. Et puis Annaëlle va montrer que c'est 2.0. Vas-y. Tiens, vas-y, tu peux. Vas-y. Ouais, casse l'œuf. Fort, fort, fort. Mince! Bah mince! Bah l'œuf! Bah il est pas cassé. Pourquoi il est pas cassé? Pourquoi il est pas cassé? Comment on a fait là pour qu'il ne soit pas cassé comme ça? Comment on a fait? Tu sais? T'as déjà mangé des œufs durs? Ouais. Tu sais comment on fait pour faire des œufs durs? On les cuit. Et on chauffe. Et ça fait un œuf dur. Tu mets dans l'eau, tu chauffes et puis t'attends. Ok? Non, mais je vais le récupérer. Ouais, t'inquiète pas, c'est pas grave. Merci Anaëlle. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Ça, c'est Pierre, version 2.0. Pierre, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a chauffé tellement fort que il était devenu tellement bouillant pour Jésus que son cœur, là, il était prêt à endurer les épreuves. Et là, 2.0. Les épreuves, mes amis, elles sont là pour nous former. Et parfois, quand face aux épreuves, on vit des choses qui sont dures et qu'on ne se confie pas en Dieu et qu'on ne suit pas ce que Dieu veut ou qu'on a une conception de qui Dieu est, mais pas de ce que Dieu est vraiment, ben on finit comme le Pierre version 1.0. On explose littéralement en plein vol et quand on tombe, ben après on est en morceaux. On est là, on est éparpillé. Quand on est chauffé par les épreuves, et vous savez très bien, je vis des épreuves, mais vous aussi, vous en vivez. Bah, chacun, face à nos épreuves, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de nous affermir. Et comme cet œuf-là, bah, ça nous permet quoi? Ça nous permet de résister quand vient l'épreuve. Eh bien ça, mes amis, c'est ça qui est important dans la vie avec Dieu. Pierre, il a été bouillant assez longtemps pour que l'œuf de sa détermination ne soit pas brisé et reste entier. Il ne l'a pas abandonné, il a su relever la tête. Mais il a su relever la tête pourquoi? Parce que Jésus est revenu vers lui. Mais Jésus peut revenir vers nous. Et il frappe à la porte de notre cœur. Et souvent, il y a toujours ces deux choix qui viennent à nous. Soit on l'accepte, soit on le refuse. Et si on le refuse, on finit comme cet œuf-là. Si on l'accepte, on finit comme l'autre, la version 2.0. Nos épreuves, elles sont difficiles. Chacun en vit nos épreuves. Elles peuvent être chacun différentes, mais elles nous amènent à mieux connaître qui est Dieu. Et il est tellement important qu'on puisse vivre cela, non pas parce que Dieu est sadique et qu'il aime nous faire vivre ses épreuves, mais que tant qu'on ne les vit pas, on ne voit pas ce qu'il y a et comment on a besoin de grandir avec lui. Et si on s'éloigne de Dieu, c'est généralement parce que notre perception, elle est différente de ce que Dieu est vraiment. Et alors, je n'ai pas cette référence-là, là. Je ne l'ai pas prise, c'était cette nuit là, quand j'y pensais. Au message, et c'était dans le début de Jacques, il dit « Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à quoi? À l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes et des femmes auxquels il ne manque rien. » Ces épreuves-là, parfois, on crie à Dieu, on se dit « Waouh, pourquoi tu me fais vivre ça? C'est pas normal! Moi, je vis ça là! Je ne dois pas vivre ça! T'es Dieu là! Tu devrais réagir autrement! » Non! Non! Ça, c'est l'école de Dieu. Parce que comme on est un peu têtu, on a la tête dure, comme Pierre, bah parfois, il nous faut passer par des temps d'épreuve où ça chauffe, où la pression elle est difficile. Je ne dis pas ça parce que... et je sais que là, il y en a certains qui peuvent être dans l'épreuve et que ça peut être difficile. Je veux pas du tout dire « Ah, tu es dans l'épreuve, c'est bien, Dieu est en train de te transformer. » Non, non. Je veux être là dans la simplicité de dire « Oui, les épreuves là, que tu peux vivre, elles peuvent être terriblement difficiles. et je ne sais pas ce que vous pouvez vivre, et je ne peux même pas forcément imaginer tout ce que chacun vous pouvez vivre, mais que quand, la question, ce n'est pas, c'est pas tant comment on va faire pour nous en sortir, mais plutôt, si je m'approche de Dieu, qu'est-ce que ça va changer ? Et je peux vous dire que si vous approchez de Dieu, ça va changer tout. Et parfois, on est plus là en train de prier, « Seigneur, change mes circonstances. Change ce que je suis en train de vivre. Change l'épreuve. Change ça. » Alors que bien souvent, Dieu voudrait que nous changions, nous, dans nos circonstances. Et c'est ça l'école de Dieu. Et tant qu'on n'a pas été transformé, on ne va pas pouvoir transmettre des bonnes choses. Et un disciple qui va être efficace, c'est un disciple qui va transmettre la parole. Mais pourquoi ? Parce qu'il la connaît, il l'a vécu, il l'a expérimenté. Il n'est pas temps d'abandonner vos résolutions. Peut-être vous avez vécu des moments difficiles et chacun dans notre vie spirituelle, il y a des moments où ça va, il y a des moments où c'est difficile, mais il ne faut pas que vous abandonniez. On est en ce début d'année 2018, là, il n'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Continuez de vous appuyer sur Dieu. Revenez à Dieu si jamais vous êtes fatigué, vous êtes chargé, vos épreuves sont là, elles sont difficiles. Elles sont importantes parce qu'elles nous amènent à un état d'adulte. Et est-ce qu'un enfant, il peut transmettre quelque chose ? Est-ce qu'il peut donner quelque chose à ses parents ? Oui, il transmet de l'amour finalement, mais il ne peut pas de lui-même donner quelque chose. Il le fait indépendamment de lui parce qu'il est simplement lui en fait, il donne. Mais s'il voulait donner quelque chose, il ne peut pas. C'est que quand il devient adulte que là, il peut transmettre quelque chose. Et c'est pour ça que nos épreuves, comme ce que Pierre a vécu, comme ce que vous pouvez vivre, ça peut être la maladie, ça peut être des défis dans votre famille, etc., dans votre entourage, dans votre travail, peu importe. Mais ce qu'il y a, c'est que ces épreuves-là, elles sont là pour nous amener à plaire à Dieu. Et on est appelé à mener nos efforts pour plaire à Dieu. Pas on lui plaît à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il nous a sauvés. C'est le prix que Jésus a payé. Mais pourquoi ? Parce que Dieu, il veut qu'on le suive et qu'on avance avec lui et pas simplement qu'on se contente de notre salut et qu'il n'y ait rien d'autre. On reste des enfants, on reste des bébés. Non, on est appelé à devenir ces adultes. On est appelé, du coup, à chercher l'excellence. Et pour grandir, il faut connaître Dieu. Cette invitation suprême, elle est là. Connaissez Dieu. Vous savez, Xavier, avant qu'il vive ce qu'il a vécu, il a animé un groupe qui s'appelle Plus Loin. Plus Loin, c'est un groupe en fait, de formation de disciples. C'est un groupe pour mieux connaître Dieu. Il y a, aux dernières nouvelles de ce qu'il m'expliquait, il y a une quinzaine de personnes. Moi, je trouve ça dommage. Parce que je pense qu'il y aurait quelque chose de tellement, tellement bon à vivre des moments comme ça, à se former pour grandir. Oui, c'est les épreuves de la vie qui nous amènent à grandir, mais plus loin là, c'est qu'on cherche à aller plus loin. Et vraiment, moi je vous invite, allez-y. Quand ça se remettra en place, allez-y, venez vous former. On a besoin de connaître Dieu, on a besoin de connaître qui il est, de son caractère, afin que celui-ci nous imprègne, nous transforme et que nous aussi nous devenions semblables à Christ. Pourquoi ? Parce que l'état d'adulte, en fait, c'est Paul, il disait ça, il rappelait ça, c'est prier et formez-vous jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Que Christ soit formé en vous, c'est dans votre caractère, dans votre perception, dans tout votre être là, que Christ soit formé en vous. Allez plus loin. Vous contentez pas du minimum. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses, des circonstances dans notre vie qui sont là, mais je vous assure, c'est tellement bon de recevoir ce que Dieu veut et de mieux le connaître, parce que c'est le connaître qui fait notre existence. Nous sommes créés pour connaître Dieu. Et il y a un épanouissement, il y a quelque chose et de tellement grand. Et c'est un investissement spirituel qui rapporte parce que parfois on perd tellement de temps face à nos épreuves qu'on ne perdrait pas si justement on venait devant Dieu simplement, on apprenait à le connaître, on appelait à se former avec lui. Et c'est une invitation, un cri du cœur. Connaissez Dieu. Connaissez Dieu. On va voir ensemble aussi ce dernier aspect. Alors, le temps passe vite, là. Et j'aimerais avec vous partager ce texte-là, parce que j'aimerais m'intéresser à ce que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Et on va revenir un moment sur l'exemple de Pierre, mais il est important de voir ce que Dieu a mis en nous. Et je vais vous lire un passage dans Ézéchiel qui parle en fait d'un peuple, du peuple d'Israël, en fait, c'est Ézéchiel 22. Le peuple d'Israël, il a péché contre Dieu. Il a voulu avancer sans Dieu, en ignorant Dieu. Ils ont subi des tas d'épreuves et ils étaient en train d'en subir des tas d'épreuves, des moments qui étaient durs, mais ça ne les empêchait pas de continuer dans leur voie. Et Ézéchiel, il est là. En fait, on était à deux chapitres de la prise de Jérusalem par les Babyloniens et que c'était fini, le peuple d'Israël allait être déporté. C'était bientôt la fin. Et pourtant, Dieu, là, il vient les avertir et il vient leur transmettre ce message-là. Lisons-le ensemble. Il dit, « L'Éternel m'adressa la parole en ces termes, « Fils d'homme, les gens du peuple d'Israël sont devenus pour moi comme des scories. Tous, ils ne sont que le rebut du cuivre, de l'étain, du fer et du plomb jeté dans un creuset. Oui, ils sont devenus des scories d'argent. » Et puis, « C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel déclare ceci, « Parce que vous êtes tous devenus semblables à des scories, je vais vous rassembler au milieu de Jérusalem, comme on entasse de l'argent dans un creuset, sous lequel on attise le feu pour les faire fondre. Ainsi, je vous entasserai dans ma colère et ma fureur. Je vous jetterai là, dans le creuset, et je vous fondrai. » Waouh. C'est un passage qui est dur, mais il est tellement important. Pourquoi ? Parce que Dieu avait placé des talents, des dons, des merveilles dans la vie des membres de chacun des membres de son peuple, mais ceux-ci, il l'avait négligé et sali. Les scories, c'est quoi ? C'est des impuretés. C'est toutes ces choses-là qui ne devraient pas être là, mais qui sont là. Et malheureusement, peut-être parfois par nos habitudes, par notre comportement, par nos péchés, nous nous éloignons de ce que Dieu veut, la créature merveilleuse que Dieu a faite. On est toujours cette créature merveilleuse aux yeux de Dieu, mais on se salit, on bafoue, on détourne cela. Et c'est tellement dommage. Et en fait, les questions qu'on est appelé à se poser, c'est quel est l'état de notre cœur ? Est-ce que le précédent état des lieux qu'on a vu ensemble, il a fait surgir en nous ces scories, ces impuretés ? Est-ce que nous sommes des pépites d'or pur ? Ou alors, on a des scories qui sont là, qui ternissent leur valeur. Si je vous partage ce texte-là, c'est aussi qu'il y a une prophétie dans cette église-là, là, qui parlait des scories de nos cœurs. Et ce que je vous partage, là, c'est pas facile, là, mais il faut que je vous le partage. Parce qu'on connaît tous nos défauts. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? C'est ça la question. Et si je vous dis pas ça, c'est pas pour nous amener à de la culpabilité. Encore une fois, je le rappelle, la dernière fois je partageais ça, la culpabilité là, ça vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu, c'est la conviction de péché, qui est nettement différente. Parce que la culpabilité, elle nous amène comme Pierre à vouloir retourner à notre vie d'avant et se dire, ok, tant pis, je vais vivre là, je vais faire ce que je connaissais, et puis sans Dieu, puis parce que j'ai déplu à Dieu, du coup je ne peux plus m'approcher de lui. Non, la conviction de péché, elle nous amène à pouvoir revenir à Dieu de tout notre cœur, et on a ce désir ardent que lui nous transforme. Ok ? Pour vous expliquer bien l'aspect là de faire fondre les choses, je vais vous parler en fait de quelque chose que j'ai compris, que j'ai appris en faisant des sciences, et qui concerne la purification de l'or. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on purifie un métal précieux, de l'or ou d'autres, comment on purifie quelque chose de précieux ? Alors il y a tout un procédé, je ne vais pas le donner en détail, je ne le connais même pas par cœur, mais il y a quelque chose qui m'a interpellé là-dedans, c'est que la chose à faire, la chose la plus importante à faire pour pouvoir purifier de l'or, c'est qu'il faut chauffer, chauffer, chauffer. Et chauffer encore, jusqu'à ce que quoi ? Ce que les impuretés, elles remontent à la surface. Et lorsque les impuretés sont remontées à la surface, on ajoute d'autres produits chimiques, d'autres choses qui viennent piéger ces impuretés-là. Mais c'est le principe, c'est quoi? Le premier principe, là, c'est qu'il faut chauffer. Il faut que ça chauffe. Et les épreuves, ça chauffe. Les épreuves, c'est dur, ça chauffe, mais c'est le meilleur moyen pour qu'on devienne cette pépite d'or pure qui plaît à Dieu et qui apporte, qui a une grande valeur et qui peut faire des choses extraordinaires. C'est ça qu'on est appelé à vivre. C'est ça qu'on est appelé à chercher de tout notre cœur. Parce que les impuretés, elles doivent être retirées de nous. Laissez-moi continuer avec ça parce que ça, c'est vraiment important. Parce que, en fait, dans nos épreuves, les épreuves, elles viennent chauffer notre vie. La température, là, elle monte. Et ça devient parfois insupportable. Mais c'est nécessaire, pourquoi ? Pour révéler l'état de notre cœur. Quand le métal, il chauffe et que les scories, elles remontent, et qu'elles remontent à la surface, les impuretés montent à la surface, c'est là le meilleur moyen pour pouvoir les retirer. C'est quand ça chauffe, c'est quand les épreuves, elles sont là, au plus fort de nous, que là, c'est le meilleur moyen pour être transformé. Parce que non seulement Dieu, il sait qu'elles sont là, mais à ce moment-là, nous aussi, on sait qu'elles sont là. Et c'est ça qui est bon, c'est ça qui est extraordinaire, parce que là, comme Pierre, eh bien, on voit l'état de notre cœur au bout d'un moment. Pierre, il a vu l'état de son cœur, et il est devenu tout humble à cause de ça, parce qu'il était mal. Il se disait, punaise, en fait, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas du tout ce que je vais faire. Comment nous, on réagit face à nos épreuves ? Est-ce que lorsque nos impuretés elles sont révélées, est-ce qu'on culpabilise, du coup on s'éloigne de Dieu ? Est-ce qu'on attend que ça refroidisse, histoire que les impuretés reviennent au-dedans de nous ? Ou est-ce que lorsqu'elles sont révélées, on les prend à bras le corps et on se dit « Ok, toi là, il faut que tu dégages. Impureté là, il faut que tu dégages, il faut que ça sorte, il faut que ça parte, il faut que ce soit fini parce que moi, Seigneur, je veux te plaire. Et parce que je veux te plaire, je sais qu'il faut que je passe par là. » C'est dur là, mais c'est le meilleur moment pour que les choses viennent et qu'il y ait une transformation. Ce matin-là, on peut venir peut-être avec nos épreuves, avec des défauts qui sont là en nous. Là, on se dit, punaise, j'aimerais que mon caractère change. J'aimerais qu'il y ait ça, il y ait ci, il y ait ça, qui change. Et je voudrais qu'il y ait cette transformation-là. Si vous le savez, c'est parce qu'il y a eu un moment où il y a eu l'épreuve. Et quand il y a eu l'épreuve, c'est venu révéler l'état de notre cœur, de chacun d'entre nous. Et là, on peut se dire, ok, il va falloir s'y mettre là, au boulot. C'est l'école de Dieu, ça. Pourquoi ? Parce que en fait, on est tellement têtu et on est tellement à vouloir rester dans notre manière de vivre. Et moi, le premier, hein, moi, je suis le premier. Hein, tant qu'il n'y a pas l'épreuve, ça ne m'amène pas à vouloir changer. Et du coup, quand vient l'épreuve, je fais cette prière d'ailleurs là à Dieu, parce que je sais qu'il y a des choses qui doivent être changées dans mon caractère. Et je dis, Seigneur, là, parce qu'il y a des fois, je me suis gamellé et j'ai voulu qu'il y ait des choses qui changent et ça ne changeait pas tout de suite. Et je disais, Seigneur, bon, je sais que là, il y a ça, cet aspect-là, il faut qu'il change. Je sais que là, ça, pour que ça soit transformé, il va falloir que ça chauffe. Alors, Seigneur, s'il te plaît, hein, chauffe un poil doucement, d'accord ? Juste à tantiner doucement, là. Et puis, s'il te plaît, Seigneur, préviens-moi, là, quand ça commence à chauffer, que je ne sois pas là en train de me débattre comme un enfant, en train de me dire, oh, c'est pas normal, oh, pourquoi je vis ça, non, je veux pas vivre ça, non, c'est n'importe quoi, et puis là, t'es comme ça, et puis tu te dis, punaise, ça me gonfle. Non, non, je dis, Seigneur, préviens-moi, là, histoire que je me débatte pas et que ça ne serve pas à rien, en fait. Si vous ne le faites pas et que ça chauffe parfois trop dur, je vous invite aussi à faire cette prière. En tout cas, moi, quand je vis ça maintenant, je le vis différemment. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où c'est dur et que j'ai envie de donner un bon coup de pied là-dedans et de dire « c'est bon, ça chauffe bien assez là, j'ai assez de difficultés comme ça là, j'ai l'impression que les problèmes, ils arrivent tous d'un coup ». En fait, c'est juste que l'état du cœur, bah, il était peut-être un peu moins bien que ce que j'imaginais. En fait, c'est souvent ça d'ailleurs. Pierre a renouvelé son engagement avec Jésus lorsqu'il s'est rendu compte de son désarroi et que Jésus est revenu vers lui. Pierre s'est à nouveau consacré à Dieu Et lorsque il s'est à nouveau consacré à Dieu, Jésus l'a tout de suite dit, lui a tout de suite révélé, lui a dit « Prends soin de mes brebis. » La conviction que de Dieu, et ça c'est vraiment, et c'est tellement important là. Dieu là, quand il révèle l'état de notre cœur, c'est pour retirer les impuretés et que nous on puisse voir la pierre précieuse qu'il y a en nous. Et cette pierre précieuse, c'est Dieu qui l'a placée pour sa gloire et afin que nous le servions. Dieu l'a placée telle que, eh bien, ça nous permet de le servir et de rentrer pleinement dans le plan que Dieu avait voulu pour nous. C'est quand Pierre était au plus bas, était le plus humble, que là, Jésus a renouvelé son appel, « Prends soin de mes brebis ». Et c'est là que Pierre s'est exécuté. Quand vient le moment de l'épreuve, venez à Dieu et aspirez à ce renouvellement de l'appel que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Dieu, il a mis des talents. Il y a des pierres précieuses. Il y a de l'or, de l'étain, du bronze, du cuivre. Il y a toutes sortes de métaux précieux qui sont là. Et il faut que ces scories-là s'en aillent. Pourquoi ? Pour qu'on puisse se mettre à l'action, et une action pour Dieu, pour sa gloire, afin qu'on devienne ses disciples qui savent, qui connaissent Dieu, qui connaissent aussi ce que Dieu a mis en nous. Et là, on devient des disciples efficaces. Là, on peut servir efficacement Dieu. Si ce n'est pas fait, ça ne fonctionnera pas. On ne rentrera pas pleinement dans l'appel que Dieu a prévu pour nous. Et finalement, ça ne changera rien. Vous savez, ce passage-là, là, juste après, il y a un passage qu'on connaît bien. J'aimerais qu'on le lise ensemble parce que je crois qu'il va y avoir quelque chose de précieux et de puissant à réaliser pour qu'on puisse rentrer dans l'action. Il dit « J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart et qui se tienne debout sur la brèche devant moi en faveur du pays afin d'éviter sa destruction. Mais je n'ai trouvé personne. C'est pourquoi je répandrai ma fureur sur eux, je les consumerai dans le feu de ma colère, je leur ferai payer leur conduite, le Seigneur l'Éternel le déclare. » Dieu, il n'a pas changé. Le peuple d'Israël, là, il était tellement lent à comprendre, malgré la patience de Dieu, et du fait qu'il n'ait aussi trouvé personne qui se tenait sur la brèche pour intercéder en faveur du peuple, qu'il a dû agir. Ce n'est pas la volonté de Dieu que de rentrer dans un jugement et de punir Israël. Ce n'était pas du tout sa volonté. Mais il a dû le faire pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Vous savez qui est cet intercesseur-là qui intercède auprès du peuple ? C'est Jésus. Le premier, c'est Jésus. Et ce Jésus-là, on peut en bénéficier aujourd'hui. Si on ne vit pas parfois la destruction totale, c'est parce que Jésus, il intercède là en nous. Et il veut ça. Et on vit dans ce temps de grâce aujourd'hui. Et le monde vit dans ce temps de grâce aujourd'hui parce que Jésus est là, il intercède. Il dit non, il faut que chacun soit sauvé. Il veut que tous soient sauvés. Il ne veut pas qu'il n'y en ait aucun qui soit abandonné et laissé pour compte. Il voudrait que tous soient sauvés. Mais du coup, évidemment, Dieu, au final, il va nous juger. On va être mis face à lui. Mais si on a choisi Jésus, il se tiendra là devant nous et dit « Non, cette personne-là, c'est mon enfant, c'est mon frère. » Jésus qui dirait ça, c'est mon frère. Rentre pleinement dans le royaume de Dieu. Parce qu'il veut qu'on le choisisse. Et moi, j'aimerais, quand je me retrouverai face à Dieu, que Dieu me dise « Bon et fidèle serviteur. » J'aimerais que Dieu me dise ça. Je ne veux pas passer à côté de ce que Dieu a prévu pour moi. Et vous ? Si on refuse, Dieu ne nous forcera pas. De notre vie, Dieu ne nous forcera pas. Mais on se retrouvera quand même face à lui à un moment donné. Et c'est difficile. C'est là tout l'équilibre entre réaliser l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, mais c'est aussi un Dieu juste. C'est un Dieu juste. Ulrich nous parlait la dernière fois, début janvier, là, de la parabole des talents. Chacun en a des talents. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on est de ceux qui les enterrent ? Est-ce que la pierre précieuse qui est en nous, parce qu'on a vu une scorie et qu'on n'est pas prêt à ce qu'elle soit retirée, on préfère l'enterrer, notre talent ? Non, il ne faut surtout pas. On est assemblés dans cette église-là, là. Il y a tellement de talents. Il y a tellement de talents, de pierres précieuses. Chacun, vous n'imaginez même pas, et même moi, je n'imagine même pas les dons et les talents qui sont en vous. La beauté de ce que Dieu a fait en vous, mais quand Dieu pose son regard sur vous, il dit « Mon enfant, mon bien-aimé, qu'est-ce que je t'aime ?» Je voudrais tellement là qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ta vie là. Laisse-moi faire parce que si tu te laisses faire, va y avoir des changements extraordinaires qui vont se passer. Dieu, il est là et il veut que on soit transformé pour que on puisse pleinement passer à l'action. Une église qui grandit, c'est une église qui connaît Dieu et qui connaît ce que Dieu a mis en chacun des membres de son église. Si chacun d'entre nous nous saisissons pleinement ce que Dieu a voulu mettre en nous, ça va avoir une transformation extraordinaire pour l'église. Pourquoi ? Parce que le corps, s'il n'y a que la tête, s'il n'y a que le bras, et qui n'a pas le pied, comment on fait ? Ben, il boite, il est en fauteuil roulant. Si dans le corps, il y a tout, sauf la main, comment est-ce qu'on va pouvoir agir et être unis et porter du fruit ? On ne peut pas, on a besoin chacun. Et c'est pour ça que c'est un cri ardent, en particulier dans cette année 2018, il faut qu'on saisisse pleinement cela, parce que si on saisit ça, si on rentre pleinement dans l'appel que Dieu a voulu, mais je vous dis mes amis, l'église là, elle va porter du fruit et du fruit en abondance. Ça va être une église qui va se multiplier, ça va être une église qui va pouvoir transmettre la bonne nouvelle, parce qu'on va être des disciples efficaces qui connaissent Dieu et qui savent ce que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Et c'est important qu'on ait de révéler non seulement nos impuretés pour les retirer, mais aussi le cadeau et les pierres précieuses que nous sommes. Et pour ça, il faut se mettre devant Dieu. Il faut qu'on se mette devant Dieu parce que c'est un moment, un appel. Seigneur, qui je suis pour toi ? Quand Jésus il dit « Qui dites-vous que je suis ?» Demandons à Dieu « Qui dis-tu que je suis ?» Qui dis-tu que je suis afin que je rentre dans ce que toi tu veux ? L'Église, elle n'est pas appelée qu'à être un hôpital ou une maison de repos, ou un endroit où on se réunit, où on se rassemble et c'est bien. C'est aussi appelé à être un endroit où on reçoit les instructions et les encouragements de Dieu pour son œuvre. C'est un avant-poste. Il y a des appels ce matin qui doivent être renouvelés. Et j'aimerais finir avec cette image. Il ne faut pas qu'on se dise « je suis trop jeune, je suis trop endetté ». J'ai trop à perdre, je suis trop occupé, trop fatigué, trop dépassé ou trop vieux, parce qu'après il sera trop tard. Il ne faut pas qu'on se laisse happer par la vie et qu'on saisisse pleinement ce que Dieu a voulu. Ce début d'année 2018, il faut que ce soit l'occasion pour nous de mettre en application les résolutions qu'on a pu prendre spirituellement. Et si on ne les a pas prises, faisons-le ce matin. Prenons ces résolutions spirituelles avec Dieu ce matin, parce qu'on est appelé à se consacrer à lui. On est appelé à le connaître pleinement. C'est tellement important de chercher à lui obéir, à lui plaire, parce qu'on va vivre des choses extraordinaires. Vous savez, quand je me suis converti, j'ai eu cet appel de Dieu directement parce que il voulait que je le serve. Et je me suis dit, ok, je vais te servir. C'est resté un moment, et puis c'est pas venu, les choses ont fait leur chemin, et puis j'avançais pas trop, et puis je savais pas trop. Puis je suis parti en Angleterre, et j'ai servi dans la radio chrétienne avec David. Et j'ai eu l'occasion à un moment d'avoir un repas, il m'avait invité pour qu'on mange ensemble. Et puis à ce moment-là, il m'a parlé de son cœur et de sa passion pour les âmes. Il m'a dit, Guillaume, il m'a parlé en français, c'était cool. Il m'a dit, Guillaume, moi, je suis passionné pour les âmes. Mon cœur, là, il est ardent pour les âmes et j'aimerais tellement que tous soient sauvés, que tous entendent la parole de Dieu. Et je crois aujourd'hui, avec les technologies actuelles, les médias, qu'il faut passer par cet outil-là pour pouvoir apporter la bonne nouvelle. Et je suis tellement passionné par les âmes, là, qu'il faut que je vise ça. Ah, je me suis dit, ah, c'est super ce qu'il fait, David. Puis après, je me suis dit, punaise, j'aime pas vraiment les gens, moi. Je suis pas passionné des gens. Et là, je m'étais dit, mais j'ai reçu mon appel, mais je suis pas passionné des gens. Ouais, ils sont là, j'aime ma famille, j'aime mes amis, ouais, c'est bien. Mais les autres, ils font leur vie, quoi. Oh là 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 là. Quand j'ai vécu ça, après, je me suis dit, Seigneur, ah Seigneur, transforme ça en moi. Transforme ça en moi. Enlève cette scorie là, enlève cet orgueil, cet égocentrisme, afin que je te plaise là et que je sois passionné des gens. Je veux pas rester comme je suis. Je peux pas rester comme ça parce que là, je me sentais mal là à ce moment-là et je me sentais mal pas parce que je culpabilisais, mais que j'avais une conviction de péché parce que je manquais le but de ce que Dieu voulait et je manquais quoi? Je manquais en fait l'appel de Dieu. C'est ça péché. Péché, c'est pas faire quelque chose de mal. C'est aussi ne pas faire ce que je devrais faire. Le non-choix ou l'inaction est parfois péché. Et ça, c'est terrible. Oh là là, quand j'ai réalisé ça, punaise, ça m'a secoué. Et je me suis dit, non, Seigneur, il faut que je revienne à toi. Et pour ces raisons-là, ce matin, j'aimerais juste prendre ce temps-là avec chacun d'entre nous parce qu'il faut qu'on prie pour ça. S'il y en a qui veulent se reconsacrer à Dieu et vivre un engagement, prendre ces résolutions-là, vous le faites avec Dieu. Je ne viendrai pas vous voir pour vous dire c'est quoi ta résolution quoi. Juste qu'on veut vivre un changement dans nos vies au point que les épreuves de nos vies, on ne les vive plus de la même manière. J'aimerais prier avec ceux qui veulent faire ça. Et j'aimerais aussi prier avec ceux qui voudraient répondre à l'appel de Dieu pour leur vie. Vous savez quel est votre talent. Et oh punaise. Il y en a ici dans cette salle, vous savez quel est votre talent, mais vous l'avez enterré et vous êtes dépressif à cause de ça. Vous êtes mal à cause de ça parce que vous savez ce que Dieu met en vous. Et pourquoi vous êtes mal? C'est parce que vous ne rentrez pas pleinement dans cet appel. Et vous ne réalisez pas que Dieu, en fait, la seule chose qu'il veut là, c'est « Reviens vers moi, je vais te porter, je vais te façonner, je vais te reconstruire et tu vas voir là, tu vas me servir, tu vas être heureux, tu vas retrouver le sourire. » Il y en a, je sais dans cette salle, il y en a qui vivent ça, qui sont terriblement touchés dans leur cœur, qui sont abattus parce que l'appel de Dieu, il était là et vous avez enterré votre talent. Vous avez enterré votre talent. Et si vous ne le connaissez pas, il faut que vous le cherchiez, que vous priez Dieu pour ça. Il faut que vous priez Dieu pour ça. S'il y en a là qui, si vous voulez qu'on puisse prier ensemble, j'aimerais que par cette